Sophie.
Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel. C'est la dernière partie de RFI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Au menu, le sud d'Haïti isolé en raison d'opérations de la police nationale haïtienne à Gressier. Le transport vers le Grand Sud est totalement à l'arrêt. On est en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Un document exclusif sur RFI. Un entretien avec Maria Corina Machado, la tête de file de l'opposition au Venezuela à 3 jours de la présidentielle dans le pays. Et puis l'actualité des Outre-mer avec Benoît Ferrand. Et la une, Benoît, catastrophique. Voilà le triste bilan de la campagne sucrière 2024 en Guadeloupe.
Eh oui, tous les chiffres sont en berne. Nous entendrons tout à l'heure la réaction dépitée du directeur de l'usine sucrière de Gardel.
À tout à l'heure, Benoît, on vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal avec vous Gilles Moreau, bonjour Gilles.
Bonjour.
Et les compétitions qui ont commencé aux Jeux Olympiques de Paris.
Oui, il y avait hier des matchs de football et de rugby, deux sports qui reviennent aujourd'hui. Le tournoi de rugby à 7 s'offre un premier choc au sommet. Face à face cet après-midi, la France d'Antoine Dupont et les Fidji, doubles champions olympiques en titre. Cédric de Oliveira, vous êtes au Stade de France. L'enjeu Cédric, c'est de finir premier de la poule.
Oui, bonjour Gilles,
bonjour.
Bonjour Stéphane, effectivement France-Fidji qui ne va pas tarder après le match là qu'il y a en ce moment entre les États-Unis et l'Uruguay, c'est d'ailleurs la même poule que cette équipe de France hier qui a un petit peu été timorée, elle était la première équipe à entrer en lice pour la délégation tricolore avec un match nul, 12 partout face aux Américains et une victoire étriquée face à ces Uruguayens, 19-12, donc on attend des bleus un petit peu plus convaincants. Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, un quart de finale qui aura lieu en soirée. L'idée, c'est vrai, c'est de terminer premier de cette poule face aux Fidji. Vous le disiez, double champion olympique en titre. Pour faire un équivalent, c'est un petit peu les Brésiliens du rugby à 7. Ils ont gagné les deux seuls titres olympiques jusqu'à maintenant à Rio et à Tokyo. On attend notamment à Antoine Dupont, un petit peu comme hier, se démultiplier sur le terrain tel un poulpe. Antoine Dupont, qu'on espère convaincant avec cette équipe de France avant ce quart de finale, on le disait, qui aura lieu en soirée.
Merci Cédric de Oliveira. Il y a donc du rugby à 7 et du football au programme ce jeudi, également du handball féminin. Un site internet pour tout savoir du programme complet et détaillé, le site rfi.fr. Et puis un mot encore de tennis, le tirage au sort a prévu un possible choc dès le deuxième tour entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux joueurs les plus titrés en grand chelem. Nous sommes à la veille de la cérémonie d'ouverture, cérémonie qui promet d'être grandiose et unique en son genre le long de la Seine et non pas dans un stade, comme d'habitude. Avec quels artistes? Eh bien, pas encore de certitude, mais des noms qui circulent. Ceux de Lady Gaga et de Céline Dion, toutes deux aperçues à Paris. Aya Nakamura devrait participer à la grande fête habillée en Dior. On parle aussi de la chanteuse Juliette Armanet, du pianiste Sofiane Pamart et du chanteur et acteur Philippe Catherine.
On prend à présent la direction des États-Unis où on en sait un peu plus sur les origines de Kamala Harris.
Kamala Harris qui pourrait devenir dans quelques mois présidente des États-Unis. Ses origines font l'objet d'un intérêt très marqué dans tous les médias américains. Fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris a aussi des racines irlandaises. Et l'un de ses ancêtres irlandais n'offre pas le meilleur profil. À Dublin, les explications de Clémence Pénard.
Kamala Harris serait la descendante d'un esclavagiste. Son arrière-arrière-arrière-grand-père paternel, Hamilton Brown, est né en 1776 dans le comté d'Antrim, qui fait aujourd'hui partie de l'Irlande du Nord. Hamilton Brown émigre par la suite en Jamaïque, alors colonie britannique, et devient propriétaire d'une centaine d'esclaves dans les plantations de canne à sucre. En 1832, Brown s'oppose fermement à l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Le père de Kamala Harris, né donc en Jamaïque et professeur à Stanford, a lui-même reconnu le passé de sa famille dans un article paru en 2018, mais il est peu probable que la candidate démocrate revendique fièrement cette ascendance irlandaise, de la même façon que l'ont fait de nombreux présidents américains par le passé, dont bien sûr Joe Biden à des fins électorales. Aux États-Unis, près de 30 millions de personnes se disent d'origine irlandaise, une communauté qui pèse lourd, évidemment, dans les urnes. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Internet revient progressivement au Bangladesh.
Oui, il est de retour après presque une semaine de coupure. Le gouvernement avait décidé d'en couper l'accès suite aux manifestations étudiantes qui ont fait quelques 200 morts la semaine dernière. Avec ce retour, des vidéos impressionnantes apparaissent sur les réseaux sociaux. De quoi inquiéter sur l'étendue des violations des droits de l'homme au Bangladesh, Nicolas Roca.
Des policiers qui tirent sur la foule au AK-47, des cadavres gisant dans les décombres, un crâne en lambeaux comme coupé en deux dans une mare de sang. Les vidéos qui nous parviennent du Bangladesh après un peu moins d'une semaine d'isolement numérique sont très préoccupantes. Meenakshi Ganguly est la directrice adjointe de la division Asie à Human Rights Watch.
En plus des victimes lors des manifestations et des émeutes, nous entendons qu'il y a eu des arrestations souvent niées par la police. Nous sommes très inquiets car les forces de sécurité du Bangladesh ont déjà commis des actes similaires dans le passé. Elles se sont livrées à de la torture, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et à des exécutions extrajudiciaires.
Elle craint que le bilan humain soit nettement supérieur aux estimations actuelles.
La plupart des morts et des blessés sont dus aux forces de l'ordre qui ont tiré à l'aveugle et fait un usage excessif de la force contre les manifestants. À l'avenir, il devra y avoir plus d'enquêtes, car les chiffres que nous avons dépendent de ce que les journalistes peuvent obtenir des hôpitaux ou de la police. Mais de ce que l'on entend sur place, beaucoup de personnes sont mortes en dehors de la capitale et ces décès ne sont pas recensés.
Meenakshi Ganguly estime que sans pression de la communauté internationale, les autorités n'auront pas la volonté politique de faire la lumière sur ces morts.
Et l'ONU demande au Bangladesh de divulguer d'urgence tous les détails de la répression des manifestations. Les pluies diluviennes qui ont accompagné un violent typhon ont fait au moins 20 morts aux Philippines. Un pétrolier transportant 1 400 000 litres de pétrole a chaviré puis coulé au large de Manille. Les autorités s'activent pour éviter une marée noire catastrophique. Le typhon et ses vents de 190 km/h ont ensuite balayé Taïwan où deux personnes ont péri avant de se diriger vers la Chine. La Chine, justement, la Banque populaire, la Banque centrale, a pris une mesure de relance de l'économie ce matin à l'ouverture des marchés. Elle a réduit ses taux d'intérêt applicables aux prêts aux banques commerciales. Cette baisse est la plus forte depuis avril 2020. Elle découle des résultats du troisième plénum qui s'est achevé la semaine dernière en ligne de Pékin, Claire Broadhurst.
Il s'agit là avant tout de prendre des mesures pour stimuler l'économie. En réduisant les taux d'intérêt aux banques commerciales, la Banque populaire de Chine cherche à encourager les prêts aux entreprises et aux particuliers, avec comme objectif affiché de relancer une économie atone. Car l'usine du monde doit faire face à de nombreux défis, comme l'effondrement des marchés immobiliers, qui représente un quart du PIB chinois, une chute de ses exportations et une consommation interne en recul. Ces mesures prises par les banques font partie d'une stratégie qui découle des grandes directives économiques et politiques établies lors du troisième plénum. Elles cherchent à stabiliser l'économie pour répondre aux défis économiques immédiats, tout en ouvrant la voie pour les réformes long terme prévues par le gouvernement. On cherche dans cette configuration à attirer les investissements étrangers en élargissant l'accès au marché, tout en garantissant le traitement national aux entreprises étrangères. Le gouvernement chinois veut réorienter sa stratégie. Il cherche à obtenir une croissance durable et axée sur l'innovation et les technologies de pointe. Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
Enfin, des incidents ce matin à l'aéroport de Francfort, le plus fréquenté d'Allemagne. Des militants écologistes ont été arrêtés après leur intrusion. Plusieurs d'entre eux étaient parvenus à coller leurs mains sur le tarmac. L'incident a entraîné des perturbations au départ et aux arrivées des vols.
C'était le journal avec Gilles Moreau, 15h08 à Paris, 9h08 à Caracas.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Dernier jour de campagne au Venezuela avant l'élection présidentielle. Elle a lieu dimanche et l'enjeu du scrutin est bien celui-ci. Est-ce que les Vénézuéliens vont renouveler ou pas leur confiance au président Nicolas Maduro, le dirigeant chaviste qui brigue un troisième mandat? Mais selon certains sondages indépendants, il pourrait perdre le scrutin face à son adversaire, le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La campagne électorale, elle se termine aujourd'hui avec deux grands meetings dans la capitale Caracas.
Oui, la capitale sous haute tension ce jeudi, les deux camps mobilisant effectivement une dernière fois leurs sympathisants, mais surtout ceux qui hésitent encore à aller voter ce dimanche. Le taux d'abstention sera l'une des clés du scrutin. Une participation élevée pourrait bénéficier à l'opposition qui a mené une drôle de campagne. Maria Corina Machado, figure de la droite très énergique et plutôt radicale dans ses positions, avait remporté les primaires mais a été déclarée inéligible. Elle s'est faite remplacer par un total inconnu, Edmundo González Urrutia, un ancien diplomate à la voix douce qui n'a jamais attaqué frontalement son adversaire. L'appel à la réconciliation des Vénézuéliens a été toujours au centre de ma campagne, a déclaré le candidat de l'opposition qui se dit confiant de pouvoir remporter l'élection de dimanche prochain.
Alors arrive encore faut-il que le président Nicolas Maduro, s'il échoue, accepte sa défaite.
Exactement, et ça c'est la grande incertitude qui plane sur ce scrutin. Il y a quelques jours, le dirigeant chaviste au pouvoir depuis 11 ans a laissé entendre qu'il ne comptait pas lâcher les rênes du pays. Si vous ne voulez pas que le Venezuela tombe dans un bain de sang, une guerre civile, faites en sorte que nous ayons la plus grande victoire possible, a-t-il lancé à ses partisans, Stéphane.
Des propos qui ont été vivement critiqués, entre autres par le président brésilien Lula, pourtant un allié traditionnel de Nicolas Maduro.
Oui, Lula et d'autres responsables de la gauche latino-américaine ont pris leur distance avec le gouvernement vénézuélien et demandent le respect des résultats. Des propos vivement critiqués d'ailleurs par Nicolas Maduro qui a vanté le système électoral vénézuélien comme étant le meilleur du monde. Dans une interview au journal El País, le fils du leader chaviste s'évolue plus rassurant. Si le candidat de l'opposition remportait le scrutin dimanche prochain, eh bien les autorités reconnaîtraient les résultats.
Et donc Karim, est-ce qu'on a des garanties qu'il n'y aura pas de fraude ?
Non, des centaines d'observateurs étrangers seront présents, mais leur nombre ne suffit évidemment pas pour contrôler le bon fonctionnement du scrutin.
Le dossier avec vous, Karim Lipold. Merci Karim. On reste d'ailleurs au Venezuela avec cet entretien exclusif que l'on vous propose. Maria Corina Machado, la tête de file de l'opposition, inéligible par une décision de justice, elle milite sans relâche pour l'élection de celui qu'elle a désigné pour la remplacer, Edmundo González Urrutia, et pour empêcher un Nicolas Maduro de remporter un troisième mandat. Une campagne semée d'obstacles pour l'opposition. Elle explique dans cet entretien exclusif qu'elle a accordé à RFI, Maria Corina Machado, jointe par Andreina Flores et Marine Le Beg.
Maria Corina Machado, tout au long de cette campagne électorale, vous avez dénoncé des abus de la part du gouvernement de Nicolas Maduro. L'arrestation d'au moins 70 sympathisants dans votre camp, des routes bloquées pour empêcher le passage de vos convois. Comment êtes-vous parvenue à faire campagne ?
Bueno, es muy importante lo que dice porque el mundo tiene que entender que esto es todo menos elecciones.
Ce que vous dites est très important car le monde doit savoir que cette élection est tout sauf libre et juste. Elle n'est pas libre car j'ai été choisie comme candidate pendant les primaires et j'ai reçu le soutien et la confiance des Vénézuéliens, mais ils m'ont interdit de me présenter à l'élection. Elle n'est pas juste car ils ont empêché les presque 10 millions de Vénézuéliens qui vivent en dehors du pays, dans les diasporas comme les jeunes, de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter. Cette élection n'est pas équitable, dans le sens où le régime a utilisé pour sa campagne toute la force de l'État, pas seulement les moyens de communication, mais aussi les forces de l'ordre. Je ne peux pas prendre l'avion dans le pays, on ne peut pas réserver une chambre d'hôtel quand on part en campagne, on ne peut même pas acheter de quoi manger sur la route, parce qu'ils font fermer les magasins qui nous vendent de la nourriture. Ils persécutent tous ceux qui nous soutiennent. Hier, nous sommes allés faire campagne dans la province de Zulia, au nord du pays. Il n'y avait pas de scène pour le meeting, pas d'installation sonore non plus. Ils ont fait arrêter toutes les personnes qui nous fournissaient ces services. Mais malgré tout ça, ce que nous voyons, c'est une réelle ferveur, une émotion énorme. Le pays entier se retrouve uni par l'espoir d'un changement profond qui permettrait à nos enfants de rentrer à la maison et à ceux qui sont partis de revenir pour reconstruire le Venezuela.
Si le candidat de l'opposition, votre candidat, remporte cette élection, il y a un risque que Nicolas Maduro, qui est à la tête du pays depuis plus de 10 ans, refuse de quitter le pouvoir. Comment imaginez-vous cette transition ?
En effet, Nicolas Maduro menace tous les jours de recourir à la violence. Vous savez, 20 membres de notre équipe de campagne sont actuellement en prison ou réfugiés dans l'ambassade d'Argentine. Le régime au pouvoir est violent et menace de l'être encore plus si on gagne. Mais pour faire usage de la violence, pour qu'il y ait une guerre, ce sont les termes utilisés par Nicolas Maduro, il faut avoir des ennemis. Et au Venezuela, il n'y en a pas. Nous sommes un pays uni. Il y a un avantage énorme en faveur d'Edmundo González. Les sondages lui donnent plus de 30 points d'avance. Je suis convaincue que le système, le régime et Nicolas Maduro comprendront que pour leur propre bien, il faut une transition négociée. Et nous sommes prêts à faire aboutir ce processus de négociation.
Et quelle porte de sortie pourrait être offerte à Nicolas Maduro ? Est-ce que les États-Unis ont un rôle à jouer ?
Il y a de multiples options, mais je ne pense pas qu'il soit approprié d'en discuter publiquement avant que le processus de négociation ait lieu.
Lors des élections présidentielles de 2013, le candidat de l'opposition, Enrique Capriles, était donné gagnant. Le Conseil national électoral a finalement donné la victoire à Nicolas Maduro d'un cheveu. Si ce scénario devait se reproduire, quelle serait votre réaction, Maria Corina Machado? Est-ce que vous appelleriez la population à descendre dans la rue?
Écoutez, de toute façon, les gens seront dans la rue. Il faut comprendre que pour les Vénézuéliens, c'est devenu bien plus que de simples élections. Il s'agit d'une lutte spirituelle, presque religieuse, d'un mouvement social pour la libération du Venezuela. C'est très puissant. Vous allez voir, le monde va être témoin d'une participation massive, civique et pacifique. Les Vénézuéliens vont se rendre dans les bureaux de vote dès le matin très tôt. Nous allons passer la journée en famille avec nos enfants, nos petits-enfants, les personnes âgées et même les malades. Tout le monde sera dans la rue autour des bureaux de vote et ils y resteront jusqu'à ce que les votes soient comptés et que nous puissions célébrer la victoire de la démocratie au Venezuela.
Vous en parlez comme si la situation post-électorale allait être pacifique, mais Nicolas Maduro a déclaré que si l'opposition l'emportait, il y aurait, je cite, un bain de sang. Votre réaction ?
C'est une monstruosité et un mensonge. Surtout, je me demande à qui il s'adresse, parce que ça n'a plus aucun effet sur les Vénézuéliens, aucun. Cette menace selon laquelle nous devrions nous résigner et nous soumettre au totalitarisme parce que l'autre option serait la violence, elle n'a plus d'effet. Ici, la peur a été vaincue. Nicolas Maduro et le régime ont été vaincus dans les cœurs, dans les âmes et dans les rues du Venezuela. La défaite politique a même déjà eu lieu en réalité, car les Vénézuéliens, dans leur grande majorité, savent que nous allons gagner. Cette menace s'adresse peut-être à la communauté internationale, comme Chavez l'a fait à l'époque lorsqu'il a déclaré « c'est moi ou le chaos ». Et en fin de compte, il s'est avéré que c'était lui, Chavez, le chaos. Je crois que la communauté internationale n'accepte plus ce chantage. Et elle sait que le seul moyen d'endiguer la vague migratoire, le seul moyen d'apporter la stabilité au Venezuela et à la région, c'est un processus de transition démocratique négocié, un processus soutenu et légitimé parce que le peuple a exprimé dans les urnes, d'abord lors des primaires et dimanche prochain pendant les élections présidentielles.
Le rôle de l'armée est très important au Venezuela, notamment en période d'élection, son soutien est précieux. Quelle est votre relation avec l'armée? Est-ce qu'elle vous soutiendra si votre camp l'emporte?
Le soutien ira à la société vénézuélienne, pas à un parti politique. Il consistera à remplir le mandat constitutionnel de l'article 328. Et je suis certaine que, compte tenu de la force et de la participation massive des Vénézuéliens dimanche prochain, les officiers, les soldats et les militaires respecteront la Constitution et feront leur devoir. Tout comme le reste de la société vénézuélienne, ils ont des femmes, des enfants, des mères qui souffrent de la faim, de la douleur, de l'humiliation, qui ont dû fuir le Venezuela et qui veulent également un changement profond pour notre pays.
Maria Corina Machado, c'est vous qui avez mené cette campagne. Vous êtes le visage de l'opposition. Quel sera votre rôle si votre candidat, Edmundo González Urrutia, gagne ces élections?
Je serai là où je pourrai le mieux servir mon pays. Ce sera au président Edmundo González Urrutia de décider qui seront les personnes qui l'accompagneront dans ce gouvernement de transition.
Pourriez-vous, par exemple, devenir vice-présidente?
Ce sera au prochain président de la République d'en décider.
Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition au Venezuela, entretien exclusif qu'elle a accordé à RFI, jointe par Andréana Flores et Marianne Lebeg. Entretien que vous retrouvez évidemment sur RFI.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À Port-au-Prince où il est 9h19 et comme tous les jeudis, nous sommes en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Novelliste. Bonjour Franz.
Bonjour.
Et on part d'abord à l'ouest de Port-au-Prince, à Gressier, une commune de l'arrondissement de la capitale qui est le théâtre d'affrontements depuis plusieurs jours. À la PNH, la police nationale haïtienne a lancé une opération contre les groupes armés dans cette zone.
Tout à fait. L'opération est en cours depuis 3-4 jours. Il n'y a pas encore de bilan officiel, mais les échos qui parviennent à la presse font état de bandits en déroute, de la population qui supporte les forces de l'ordre et de plusieurs dizaines de morts, de blessés dans le camp des bandits. Ça fait des mois que les bandits s'étaient établis dans cette commune qui se trouve au sud de Port-au-Prince. Ils faisaient régner la terreur. Et bien aujourd'hui, la police est sur leur race. et la police essaie de les mettre en déroute. Et c'est les informations que nous avons.
Et cette principale conséquence de cette opération de la police nationale à Haïtien France, c'est que le transport entre la capitale et le grand sud d'Haïti est totalement à l'arrêt puisque la RN2 traverse la ville.
Totalement, le transport est à l'arrêt parce que les gens ont peur d'attraper une balle perdue. Les transporteurs ont été victimes à plusieurs reprises, mais il y a aussi le fait que la ville après Grécier, la ville de Léogane, se barricade pour empêcher que les bandits ne se replient dans cette ville qui est toute proche. Et le trafic vers le Grand Sud, vers plusieurs départements géographiques du pays, est totalement bloqué pour le moment.
Et puis un dernier mot, Franz Duval, un peu plus léger cette fois, puisque la délégation haïtienne est bien arrivée à Paris pour les Jeux Olympiques et le novelliste met à l'honneur Lindsey Brown, la première gymnaste féminine à représenter Haïti.
Tout à fait, la délégation a été reçue hier soir à l'ambassade d'Haïti à Paris, avec une petite réception, Madame Brown était là, elle a pris la parole. Il faut dire que c'est la première fois qu'Haïti soit représentée en gymnastique, parce qu'Haïti a pu bénéficier des retombées de sa diaspora. Madame Brown n'est pas née en Haïti, mais elle est de parents d'origine haïtienne. Elle s'est entraînée à l'étranger, elle a pu se qualifier. Elle va porter les couleurs d'Haïti et aussi être co-porte-drapeau pour la délégation haïtienne qui participe à la cérémonie d'ouverture.
Et d'ailleurs, demain, on reçoit un autre athlète haïtien qui participe aux Jeux Olympiques de Paris. Ce sera Cédric Belloni du Lèpre. On aura l'occasion de le découvrir tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Novelliste, en direct avec nous sur RFI. Et on vous retrouve jeudi prochain, 15h21, ici à Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
9h21 à Washington et le visage de Joe Biden à la une de la presse américaine ce jeudi comme en première page du Boston Globe, le président américain qui s'est exprimé hier dans une allocution solennelle où il est revenu sur son retrait de la course à sa réélection.
Je vénère cette fonction, mais j'aime encore plus mon pays. Cela a été l'honneur de ma vie d'être votre président, mais la défense de la démocratie qui est en jeu me semble plus importante que n'importe quel titre. Je puise de la force et je trouve de la joie à travailler pour le peuple américain. Mais cette tâche sacrée qui consiste à parfaire notre union ne me concerne pas. Il s'agit de vous, de vos familles, de votre avenir. Il s'agit de nous, le peuple.
Antoine Galen, la presse américaine qui estime que Joe Biden est resté pour le moins assez évasif.
Oui, le New York Times aurait aimé en savoir davantage sur le motif de son abandon. Il n'a rien dit de son âge ni de sa santé et n'a donné aucun détail, déplore le journal. Même son de cloche pour le Washington Post. L'objectif de son discours était d'expliquer l'abandon de sa candidature. Il n'y est pas vraiment parvenu. Une allocution historique au parfum d'adieu, car même s'il lui reste encore 6 mois de mandat, c'était le début d'une longue série de revoir, écrit le New York Times. Le Washington Post parle d'un adieu mélancolique. Le journal estime que Joe Biden semblait adopter le ton d'un travailleur qui s'apprête à quitter son poste pour la dernière fois avant la retraite. Mais pas de répit pour le président américain. Il rencontre aujourd'hui Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer les négociations sur Gaza. Hier, devant le Congrès américain, qui a sa cause, le premier ministre israélien a exhorté les États-Unis à débloquer une nouvelle aide militaire. Benjamin Netanyahu qui rencontrera également Donald Trump, avec qui les rapports sont plus cordiaux.
Et Donald Trump, justement, Antoine Galen, vous en parlez. Dans son allocution, Joe Biden n'a pas cité le nom de son ancien adversaire, qui est maintenant celui de Kamala Harris. Et elle subit d'ailleurs de nombreuses attaques de sa part. On écoute Donald Trump.
Oui, c'était hier en meeting à Charlotte. Donald Trump n'a pas retenu ses coups. Il a qualifié Kamala Harris de menteuse, une cinglée de la gauche radicale qui va détruire le pays si elle accède au pouvoir. Il a ajouté qu'il ne la laissera pas faire et parle d'une victime à battre. Alors Stéphane, ces joutes verbales inquiètent les éditorialistes. Le New York Times appelle les démocrates à l'unité pour protéger Kamala Harris, car elle devra non seulement contrer le sexisme dont Hillary Clinton a été victime, mais aussi le racisme dont Barack Obama a été victime. D'autant plus que Donald Trump n'est pas le seul à utiliser une rhétorique au relent raciste. Son nouveau colistier J.D. Vance avait remis en cause il y a quelques jours le patriotisme de Kamala Harris en faisant allusion à ses origines indo-jamaïcaines.
Toute la presse américaine, c'était avec vous Antoine Galen. Merci à vous. 9h24 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'actualité des Outre-mer avec nos confrères de La Première. Et voilà cette une de votre journal, Benoît Ferrand. Catastrophique, hein, tel est le triste bilan de la campagne sucrière 2024 en Guadeloupe.
Tous les chiffres sont en berne. Une récolte en baisse de 40%, une richesse en sucre de la canne au 36e dessous. Bref, une année qu'il faudra vite tenter d'oublier. Écoutez à ce sujet le directeur de l'usine sucrière de Gardel, Nicolas Philippot.
Ces chiffres disent deux choses. La première chose, ils disent que malheureusement, il y a trop peu de canne qui a été coupée par rapport au potentiel total de la canne présente en Guadeloupe, puisque c'est précisément 278 470 tonnes de canne qui ont été coupées, mais sur un potentiel de canne sur cette année qui était aux alentours de 450 000. J'entends parfois la colère dans les campagnes sur le fait qu'on aurait dû ou pu continuer. Malheureusement, non. On est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. Et la deuxième chose, les richesses étaient extrêmement faibles, d'une part parce qu'on avait commencé trop tard, mais aussi parce qu'on a eu des intempéries très fortes qui ont en plus exagéré, j'ai envie de dire, cette perte en sucre et qui ont fait qu'on a eu des rendements d'usine extrêmement faibles. Je vais vous donner deux chiffres. Le rendement habituel de l'usine, c'est 9% et aujourd'hui, on est inférieur à 6.
Une richesse de 6, cela veut dire 6 tonnes de sucre pour 100 tonnes de canne. À titre de comparaison, une richesse de 12 serait considérée comme assez médiocre à l'île de La Réunion. On reste en Guadeloupe avec l'un des bassins de la plage de Sainte-Anne fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Décision prise suite à une attaque de requins, non, de barracuda. Rien d'ailleurs de bien méchant, semble-t-il, mais le principe de précaution a prévalu. Au demeurant, l'interdiction n'est pour l'instant pas vraiment respectée. Reportage Florence Perroumal.
Équipés de palmes, masques et tubas, Alexandre, Clément et Manu profitent de l'eau cristalline, visiblement pas informés de l'interdiction.
Et en fait, la zone ici est interdite parce qu'il y a des barracudas.
Les trois amis en vacances en Guadeloupe ont croisé deux petits barracudas. Alexandre, lui, en a vu un seul, mesurant environ 20 cm.
Celui que moi j'ai vu, c'était un tout petit, minuscule, c'était un, je pense, 20 cm grand maximum.
Non loin de là, Jade et sa grand-mère ont elles aussi piqué une tête dans le bassin interdit. Elle se rassure en restant près du rivage, prête à sortir de l'eau rapidement.
On reste à proximité, s'il faut courir, on court vite.
Le danger est bien réel. Une attaque sur deux a été confirmée dans ce bassin, désormais interdit à la baignade. Le maire, Franck Baptiste, conscient de l'inquiétude que ces incidents peuvent susciter, assure vouloir trouver une solution respectueuse de la faune marine.
Avec l'association des marins pêcheurs de Sainte-Anne, pour qu'ils puissent venir diagnostiquer, regarder ensemble, ils sont sur les marins pêcheurs, ils connaissent, mais surtout avec l'aquarium, c'est eux qui vont me dire précisément ce qu'on doit faire.
Une question reste en suspens, le barracuda changera-t-il de territoire ? Sans frontières claires entre les différents bassins, il est difficile de prédire ses mouvements.
Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi, c'est la fin d'RFI Midi, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve demain, 11h30, temps universel, édition spéciale sur RFI, consacrée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Merci à Valentin Blanc, à la réalisation de la musique, avant de retrouver Pascal Paradou de vive voix, Channel 13, Cactus Water sur RFI. It feels like a heat wave. It's getting hot in here. You make me thirsty. Let me make sure my throat is clear. Howling like a coyote. Dick bitch. Girl got me on peyote. Oh shit. When I touch it like a cactus, you had poked me. She's 24, I shoot my shot. I feel like Kobe. I move around, I dance on stage. She loves the motion. When we make love, it's like a dream. You get the notion. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town. I think that I'm seeing stuff. Wait. Judge your photo phenomena. You didn't bug me hard enough, and you didn't. Wait, I just want another one. Show me how they do it in your town. Channel 13, Cactus Water sur RFI. Ça vous accompagne avant de retrouver Pascal Paradou de vive voix sur la radio du monde. Très bon après-midi à l'écoute de Radio France Internationale.
Littérature sans frontières,
Catherine Fruchon-Toussaint.
Fille de Roger Bambuc et Ghislaine Barnet, athlètes olympiques, Aurélie Bambuc consacre un livre à ses parents, couple de champions, titre de son récit. L'exemple de deux pionniers antillais à rappeler quelques jours avant les prochains JO qui se tiennent bientôt en France.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi à partir de 13h30 TU. RFI.